I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dortmund remporte la première manche face au PSG. Victoire 1-0 dans ce match aller de demi-finale de Ligue des Champions. On est ici toujours à huis clos pour le grand débrief de cette demi-finale aller donc de Ligue des Champions. Et pour parler de ce match, évidemment, je suis accompagné de mes experts. J'ai envie de commencer par toi, Manu. Tu as vécu 90 minutes en tant que consultant, en tant qu'expert foot, qu'est-ce que tu en as pensé?
Frustrant. Franchement, on a vécu une petite, on peut le dire, on a vécu une première demi, enfin une deuxième demi-finale d'un petit niveau, en tout cas technique. On va y revenir dans peut-être l'approche mentale aussi également de ces deux équipes. Mais c'est un scénario qui est complètement frustrant. Et c'est même un scénario et une physionomie de match à laquelle on ne s'attendait pas beaucoup. Pas forcément. Moi, je m'attendais à voir beaucoup de buts et beaucoup de transitions, beaucoup de spectacles, etc., etc. Et on va expliquer pourquoi on n'a pas eu tout ça.
Thomas, j'imagine que tu le rejoins un peu. Quel est le sentiment qui domine ?
Bah, il y en a deux. Ouais, la frustration d'abord. C'est sûr qu'avec le nombre d'occasions qu'il y a eu de part et d'autre, ce qu'on imaginait de ce match, l'attente qu'il y avait autour de la rencontre, ouais, on est déçu parce qu'on n'a pas vu un grand match de foot. C'est la première chose. Et puis, il y a l'autre sentiment, et on en reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, c'est que t'as perdu 1-0, t'as le match retour à domicile, t'as cette sensation quand même qu'en face c'est pas la plus grande équipe du monde et que t'as fait un match catastrophique. Donc sans dire que la qualif sera facile et tout, il faudra jouer un très grand match au retour, t'as absolument toutes les cartes entre les mains.
Mais ça valide quand même le tirage favorable pour le Paris Saint-Germain.
Mais oui, bah bien sûr.
Non, mais c'est, même si tu perds aujourd'hui,
hier, t'as raison.
Parce que si tu prends le Real, si tu prends City, si tu prends le Bayern, tu rentres avec 3-0, c'est pareil.
Hein. Ouais.
Vous êtes avec moi pour débriefer donc cette demi-finale. Vous êtes aussi là sur YouTube ou sur Twitch comme vous voulez. Je vois qu'il y a Mathis qui est là, Samuel. Il y a aussi Nathan qui est là. Salut tout le monde. N'hésitez pas à commenter puisque tout au long de l'émission, on prendra vos commentaires pour étayer un peu nos propos. Je rappelle aussi que cette émission est disponible en podcast. Voilà, maintenant que vous savez tout, on va pouvoir rentrer dans ce débrief, les gars. J'ai envie de commencer par une première sensation. Et Thomas, j'ai envie de commencer avec toi. J'ai l'impression que le PSG passe à côté de son match.
Bah oui, bien sûr. Dans la preview qu'on avait faite, on s'était dit ils vont peut-être encaisser des buts, mais ils vont marquer des buts. Et il y a beaucoup de choses dans ce match. Hein. Il y a des individualités qui étaient clairement pas au rendez-vous, un déchet technique extraordinaire, des choix de Luis Enrique en cours de match que personne n'a compris. Vous voyez de quoi je parle.
Ouais,
on y reviendra. Ou des non-coaching aussi, j'ai pas compris pourquoi. Il n'y a pas à un moment donné un milieu qui est rentré. Mais globalement, tu as raison parce que tu les as les occasions. Le double poteau, les face-à-face, la frappe de Dembélé. Si tu marques un but, le match change, change dans son entièreté. Tu arrives à marquer un but dans la dernière demi-heure, tu sais que tu pourras en marquer un deuxième. Il va y avoir une espèce d'allant. Il y a un moment donné, il y a le temps fort qui est incroyable. Il y a beaucoup d'occasions. Tu n'arrives pas à le valider. Donc oui, tu n'as pas été souverain derrière. Tu n'as pas été efficace devant. Tu as pris l'eau complètement au milieu. Bah ouais, tu as fait un petit match de foot. Et ton coach aussi à participer à tout ça.
Manu, on sent que c'est un match qui s'est joué sur un fil, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre, ça n'a pas penché du côté du PSG. Est-ce que pour toi aussi le PSG passe complètement à côté de cette demi ?
Passer complètement à côté, je suis pas forcément d'accord sur la chose, peut-être passer à côté des ingrédients que tu dois mettre dans une demi-finale de Ligue des Champions. On sait que c'est toujours un événement auquel le Paris Saint-Germain est pas vraiment habitué et on a vu justement tout ce qui a manqué au PSG. Moi, je trouve qu'on a eu un match très équilibré avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités des deux côtés. Ce qui a fait la différence, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Offensivement, on va y revenir, le Paris Saint-Germain a été très très décevant sur le plan de jeu, sur la manière de combiner. Et puis défensivement, à l'image du but notamment, on voit un Paris Saint-Germain qui est très naïf, qui est peut-être un peu trop jeune. J'ai eu l'impression d'une équipe, tout à l'heure on disait pendant le match, une équipe de U19, alors que le Borussia Dortmund n'a pas non plus un vécu extraordinaire, ces joueurs-là en tout cas, à ce niveau-là de la compétition. Trop de naïveté, trop de tendresse, et tu passes à côté des ingrédients essentiels à une demi-finale de Ligue des Champions.
Les ingrédients, on va déjà voir la recette de base qu'il y avait concocté Luis Enrique. On va reprendre la composition du PSG sans surprise pour une fois, ce qui est surprenant avec Luis Enrique. C'était finalement la compo du match retour face au au FC Barcelone. Les gars, je vais pas vous demander votre avis sur la compo parce qu'il n'y a pas de changement attendu. C'était celle qu'on voulait voir.
Ouais, c'était celle qu'on voulait voir. Il y avait une vraie incertitude sur les deux jours avant le match sur Nuno Mendes. Ouais. Au vu de son match, il était peut-être blessé. Il était surtout pas très très bon. Donc ouais, c'est exactement l'équipe qu'on voulait le voir. Après l'étincelance de Barcola au match retour, lui aussi on voulait le voir à gauche. Ça a marché avec Kylian en numéro 9. Bien sûr, allons-y. Même Fabián Ruiz a réussi à nous convaincre sur ses dernières sorties. Donc c'est dire combien il y avait très très peu de débats autour de la compo.
La petite surprise, c'est peut-être Dembélé qui est un peu plus axial, un peu plus numéro 10 en retrait des deux attaquants.
Les premières minutes.
Voilà, c'est ça exactement. Qui a un peu réajusté, je trouve, en deuxième période, où on le retrouve un peu dans un rôle un peu plus excentré. C'est la petite surprise du chef.
C'était surtout
même,
pour
soir.
L'aspect défensif. Son oui, but était raison. De coller à Emre Can, de couper complètement les relances au milieu. Quand il avait la balle en attaque, c'était surtout pour combiner avec Hakimi ou pour déborder sur l'aile droite quand même. Mm-hmm. Après, d'ailleurs, on l'a vu, dans plus le match avançait, moins il faisait cet effort-là parce que lui aussi était cramé. Le terrain avait l'air très grand ce soir.
Ouais. immense et en pente. Très en pente.
Voilà, vache.
Pente inférieure pour le PSG sur les demi-temps.
Un col à 10%. Mais avant de rentrer dans tout ce qui est tactique, les gars, il y a une donnée qui est trop importante dans les grands moments, dans les grands matchs. Et moi, j'ai voulu faire le parallèle dans ma tête, je l'ai fait tout seul avec le match de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Ouais. C'est qu'à un moment, j'ai vu une équipe un peu gentille et une équipe qui met du bois. J'ai vu le Borussia Dortmund avec des mecs comme Can, avec des gars comme Hummels qui venaient mettre des coups dans le dos, qui montraient qu'ils étaient là. Et j'ai vu le PSG être en dessous dans l'intensité. Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou pas?
Alors, sur l'intensité, moi, je trouve que c'est surtout sur le rythme et la dynamique que tu peux mettre, notamment dans les transmissions. Moi, j'ai vu des joueurs parisiens quand même qui multipliaient les touches ce soir. Certains qui ont essayé de faire des différences tout seuls, qui sont omnibulés à ça. Un Fabián Ruiz, on avait dit lors du match retour contre le FC Barcelone que justement, on sait qu'il est lent, mais il a cette capacité à permettre au ballon d'aller vite. Là, ce soir, justement, il a trop gardé le ballon, pas assez joué, justement, pas assez mis de rythme dans ses transmissions. Et c'est ça qui a manqué au Paris Saint-Germain par rapport aux transitions qui ont été parfaitement gérées par le Borussia Dortmund.
Cette différence d'intensité, pour moi, elle est symptomatique sur un duel, Adeyemi-Hakimi.
Exactement.
C'est-à-dire que Hakimi est un joueur physique, rapide, robuste même. Ce soir, sur la première mi-temps, il s'est fait bouffer dans tous les duels par Adeyemi. On a tous en tête le coup d'épaule. On se dit, il y a faute.
Hakimi et Dembélé. Hein.
Tout à fait. Mais pour le coup, il y a vraiment, à un moment donné, des duels systématiques entre les deux. Et sur de la course, sur des conduites de balles, tu pousses la balle, il y en a toujours un qui tombe et c'est toujours le joueur du PSG. Donc, bien sûr qu'on pourrait parler aussi de naïveté. On a senti une équipe tendre. Une équipe, t'as raison, gentille, mais tendre. Plus que gentil, c'est tendre. C'est j'arrive et tout, avec mes qualités, Barcola, contrôleur orienté, voilà. Ouais, enfin bon, à un moment donné, gros, ça commence par là. Faut courir, faut être intense, faut résister au duel. Et Barcola était, clairement, lui aussi, le visage de cette naïveté pour le PSG.
Mais il y a des actions symptomatiques. Tu parles de Barcola, combien de fois il se fait reprendre à l'épaule. Dembélé, qui a une contre-attaque, on s'en souvient, c'est Adeyemi qui fait le terrain entier.
Oh là,
et qui revient juste au coup d'épaule. Ça, c'est quand même des images qui sont marquantes. Ouais. C'est des images marquantes. Et vous voulez aller sur la naïveté? Je pense que la naïveté, c'est la principale cause du premier but. C'est de la naïveté. Cette relance du défenseur central pour les trouver, son attaquant, tu casses 1, 2, 8 lignes et tu te fais avoir dans le dos, c'est très parisien.
C'est très parisien et c'est aussi peut-être les défauts de cette jeune équipe. On peut aussi dire, on peut s'en prendre à Paris soir, on peut aussi féliciter quand même le Borussia Dortmund et peut-être qu'on rentre un petit peu plus dans la tactique, dans l'animation. Moi j'ai vu un bloc qui a été archi mobile, j'ai vu un bloc qui était très resserré à la perte du ballon. C'était très compliqué pour le PSG de trouver des espaces et on l'a vu à chaque fois en première période. Dembélé, je crois, a pris deux occasions et à chaque fois c'était à distance parce que
des frappes
pas,
de loin.
Voilà,
occasion
tu peux
non,
pas rentrer. Voilà, ouais, t'as raison. Opportunité.
Oui.
Tu peux, qu'il est obligé de prendre à distance. Et c'est peut-être là aussi où le game plan, on va dire, du PSG est un petit peu étonné. Moi, je suis très étonné qu'on ait dû attendre la 80e minute pour voir un premier ballon en profondeur.
Mais Manu, tu dis jeune équipe, Hernandez, Marquinhos, c'est
Hernandez
pas jeune.
Super vite. Marquinhos, il est fautif sur le premier but.
Oui,
de rien,
oui,
voilà.
Mais Hernandez, il est sur le premier but.
Oui, complètement.
Donc la charnière, elle est là.
Ils sont complètement.
Comment t'expliques cette naïveté?
Il y a pas plus au milieu de terrain. Moi, c'est plus au milieu de terrain sur les côtés
jeune,
qu'il y a de la naïveté.
Il est un peu jeune. Zaire Emery, on n'en parle pas. Mais il n'y a pas que des jeunes.
La moitié de l'équipe.
C'est l'expérience d'une demi-finale. C'est là qu'on dit qu'une demi-finale Ligue des Champions, c'est un véritable événement qu'il faut, gérer. Et peut-être que là, il y a des profils. Peut-être qu'on peut même aller plus loin. Comment ça se fait, même si Zaire Emery fait une super saison et que c'est un joueur de devenir pour le Paris Saint-Germain, comment ça se fait que tu n'aies pas une solution bis, on va dire, par rapport à un gamin qui sort du centre de formation
et
qui a 17 ans?
Après, pour le coup, on a envie de le voir sur
là,
le terrain.
Là, on étire un peu et on fera les bilans après de demi-finale
au
retour.
Envie de le voir, lui, quand même.
Ça, t'as raison. Mais en effet, c'est un manque cruel de métier. Peut-être que mentalement, il n'était pas tout à fait au point ce soir. La faute aussi à une belle équipe du Borussia Dortmund, mine de rien.
Mais Thomas, on va voir la compo du Borussia Dortmund. Et vous nous dites d'ailleurs dans le chat, quand on voit le Borussia Dortmund, tu parlais d'une équipe jeune du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que ces gens-là vont apprendre le métier au PSG? Quand tu vois des Brandt, quand tu vois des Sancho, des Adeyemi, quand tu vois des Madsen sur le côté, c'est quand même pas des joueurs non plus qui ont tant plus d'expérience que le Paris Saint-Germain.
Ouais, j'ai du mal à dire que c'est une question d'expérience. C'est plutôt une question de ce que tu as mis comme ingrédient en termes d'intensité. Et tu as raison d'aller sur la tactique. Il y a un pan tactique qui a été terrible, c'est l'aile gauche du PSG face à l'aile droite de Dortmund, donc Sancho face à Nuno Mendes. Ils se sont retrouvés en un contre un, mais un nombre de fois terrible, où à un moment donné, tu te dis, mais où est Fabien Ruiz? Puisque sur un joueur comme Sancho, tu es obligé de défendre à deux. Ouais. Si tu défends tout seul, une fois de temps en temps, tu vas en prendre un duel. Mais il va passer une fois, deux fois, et encore, je trouve que tu dis une bonne équipe du Borussia Dortmund, c'est vrai que dans le contenu global, mais ils ont été d'une maladresse derniers gestes, dans les dernières passes.
Tu parlais vraiment d'animation,
tu as raison.
Dans l'exécution, c'est autre chose.
Le PSG est allé un peu va-t'en guerre en disant, on va faire confiance à Nuno Mendes, encore une fois, comme avec la malle au match d'avant, il va faire un contrat, puis on va voir. Mais tu te fais avoir sur tout le temps les mêmes actions, alors que ton bloc doit être jet de l'un à l'autre, on doit défendre à 1, à 2, à 3. Et pour le coup, sur les premiers instants du match, tu sens que le PSG s'est trompé quand ils sont en phase défensive.
Mais moi, j'ai l'impression, juste pour venir rapidement sur Fabian Ruiz, j'ai l'impression qu'en fait, Nuno Mendes est tellement en difficulté sur son côté que Fabian Ruiz se concentre uniquement et appliqué à la couverture, justement derrière Nuno Mendes.
Tout à fait, il rentre dans l'axe limite.
Exactement. Et du coup, tu le retrouves pas à la récupération de la balle pour jouer la transition comme on l'avait vu contre le Barça au retour. Tu le retrouves pas à la bonne place, en tout
mais
cas.
Mais la grande différence de toute manière de ce match, c'est les deux blocs. Hein. Il y a un bloc de Dortmund qui défend à 10 et t'as le bloc c'est du ça. PSG. Vous pointez du doigt Fabian Ruiz. J'ai aussi envie de pointer du doigt Barcola parce qu'en face, tu vois Adeyemi qui fait à chaque fois l'effort pour venir aider Madsen. Barcola, il l'a jamais fait. Alors est-ce que c'est
très,
une consigne, vous
raison.
Le comprenez? Parce que tu peux pas avoir deux Mbappé sur le terrain, tu vois ce que j'ai envie de dire.
Ah bah clairement. Donc, et quitte à ce qu'il y ait un joueur qui ne défende pas à gauche, autant que ce soit Kylian. Mais oui, tu as raison. Il y a eu beaucoup de pertes de balles et donc des ballons de relance à Dortmund, pour Dortmund, où Barcola ne faisait pas cet effort. Alors bien sûr, il ne va pas revenir mettre le tacle qu'il faut au bon moment. Mais par contre, d'être en nombre, c'est hyper important. Et oui, les latéraux ont été laissés clairement en difficulté, à l'abandon même par moment. Personne ne défend un contre un sur un mec comme Sancho, je le disais tout à l'heure.
Oui.
Donc oui, tu as raison. Barcola est là aussi parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a la niaque, parce qu'il a du coffre, etc. Et qu'il est capable de répéter les efforts. Bah là, dans la tête, il n'a pas assez fait les efforts.
Et le football de haut niveau, on dit toujours que c'est les seconds ballons. J'ai pas vu le Paris Saint-Germain prendre les seconds ballons aujourd'hui. Et la preuve qu'ils ont été complètement étouffés par ce bloc de Dortmund.
Il y a Adrien qui nous dit que c'était pas forcément une question d'expérience, mais de leader. Et Hummel, c'est
de caractère. Ouais, il a peut-être raison.
Excellent dans ce rôle-là. On peut s'arrêter un peu sur cette défense parisienne qu'on a trouvée un peu fébrile. Vous l'avez dit, le rôle des latéraux se sont complètement fait aspirer par les ailiers offensifs. On l'avait dit dans la preview, finalement, face au Barça, il s'en était un peu bien sorti, mais on le savait que c'était des joueurs bien plus de profondeur à Adeyemi et Sancho. Là, ils se sont fait bouffer.
Il y a Zeus qui est pas content d'avoir vraiment joué au PSG. Il y a un éclair qui est tombé là, paf, sur le. Voilà,
les gars, il y a un orage. Si ça s'arrête, vous savez pourquoi.
mais quelle était ta question, Tom?
Oui, c'est vrai.
Allez, latéraux. Les latéraux, là.
Ils étaient pas prêts.
Mais attends, c'est Hakimi là qu'on a vu, l'ancien joueur de l'Inter et Dortmund. C'est Nuno Mendes, l'un des plus grands espoirs du foot mondial. Le déchet technique. Mais personne ne peut faire un bon match quand tu rates autant de trucs.
Ah non,
c'est impossible. Physiquement, tu payes. Après, tactiquement, tu payes. On a vu Nuno Mendes rater des têtes,
des
trucs.
On a vu
à la fin, quand Hakimi a des ballons de relance, courir, faire une passe et à personne. Ils ont fait absolument n'importe quoi. Aucun contrôle, aucun mental et aucune technique. Bon, bah, ça fait beaucoup pour deux mecs hyper importants dans le système.
Je sais même pas où on est allé chercher les points qu'on va leur mettre tout à l'heure. Je laisse encore un petit peu le suspense, mais je pense que déjà mentalement, il y a un problème. Alors, peut-être que tactiquement, si on revoit le match, parce que là, on est à chaud, bien sûr, c'est différent. Peut-être que tactiquement, ils n'ont pas été aidés par l'animation. Mais mentalement, comme tu as dit, le déchet, le physique. Et je pense que tout part de là, d'une certaine manière, au début.
Ça part du mental. J'ai envie de vous poser une question avant qu'on aille sur l'animation offensive. Est-ce que pour vous, le PSG perd le match en défense ce soir ou en attaque?
Les deux. Alors non, tu sais
il
quoi
le gagne pas en attaque, en
non,
tout cas.
Tu sais quoi, je pense, j'ai commencé par dire dans ce débrief que justement il y avait un manque d'efficacité du PSG dans sa surface de réparation et dans la surface de réparation adverse. Quand tu regardes les stats du match, t'as autant d'occasions de part et d'autre.
Et
la
clairement.
Seule différence, c'est que Paris touche deux fois le poteau. Donc t'as envie de te dire que ton animation offensive ou ton manque d'efficacité, encore une fois, te coûte aujourd'hui la défaite et peut-être un meilleur résultat.
Mais le constat de la défense sur l'efficacité, c'est que Il y a 90 minutes, il y a beaucoup de situations pour Dortmund, il y a beaucoup d'erreurs parisiennes. Mais finalement, les occasions de Dortmund, il y en a peut-être trois des vraiment franches.
Et le but,
tu le prends sur Lucas Hernandez qui joue bien le hors-jeu sur leur attaquant. Et sur Marquinhos, qui est en haut à droite, il faut trois ralentis pour te rendre compte que sur un talon, il couvre, encore parce que c'est toujours sur les mêmes.
Alors qu'il tend le bras bien loin.
Voilà, c'est incroyable. Donc, il y a aussi, souvent on parle des faits de jeu, des machins, et bien sûr, on peut leur tomber dessus, il n'y a pas de truc, mais Lucas Hernandez, il joue bien le hors-jeu sur le truc, il a un mètre d'avance l'autre. Donc, parfois, c'est aussi ça, avoir un petit peu de réussite, et il a de la réussite. On pourrait même dire que Donnarumma, plutôt de mettre la main, mais le pied, frérot, sur une frappe comme ça, crédit l'attaquant dans ces cas-là, bien sûr, il n'a pas fait l'exploit, mais c'est ça aussi une bonne défense, c'est quand le gardien les exploits.
Et il sort celle d'après.
En fait, elle est bizarre là, pour répondre à ta question, elle est bizarre la lecture de ce match parce que en vrai, il y a 2-0 pour le Borussia Dortmund à la fin de ce match, c'est pas illogique. Et il y a un partout.
Il y a même 2-1 pour Paris.
C'est pas illogique non plus. Donc c'est vraiment la gestion des momentum et la gestion des deux surfaces de réparation.
À la mi-temps, le PSG a cadré 0 frappe et pour le coup, là, il n'y a pas d'histoire de poteau. C'est vraiment une animation offensive qui est honteuse. On a en souvenir des frappes de Dembélé, la tête de Fabian Ruiz, c'est au deuxième mi-temps.
Dites-nous, mais j'en vois pas d'autres.
Première mi-temps.
T'as la récupération de Barcola, tu sais, passé la demi-heure, il fait une récup. D'ailleurs, chose intéressante, on n'a pas joué dans la profondeur côté parisien et il n'y a pas eu ce fameux contre-pressing qu'on peut voir notamment dans les autres matchs. Donc, c'est-à-dire les ingrédients forts du PSG depuis le début de la saison.
Mais allons-y sur cette animation offensive, les gars. Quand on voit le positionnement une nouvelle fois ce soir, j'ai envie de commencer par Kylian Mbappé. On est obligé de commencer par Kylian Mbappé. Moi, je suis désolé, je ne comprends toujours pas pourquoi on le positionne en 9. Aujourd'hui, je ne trouve pas un Mbappé qui est tranchant. Et quand on voit la défense du Borussia Dortmund et comment sur Barcola, les quelques ballons qu'il a pu avoir sur le côté, comment il a pu faire mal à l'arrière droit, comment tu choisis de mettre Mbappé en pointe? Comment vous l'expliquez, vous?
Parce qu'il adore Bradley Barcola. Il adore ce gars-là. Ils l'ont pris cher à Lyon. Il a une progression exceptionnelle cette année. Vraiment, on ne va pas enlever tout ce qu'il a fait cette saison. Luis Enrique l'adore. Il n'empêche que ça reste un très jeune joueur. Qui est le très jeune joueur, c'est souvent ce qu'on dit, hein, il manque de régularité. Donc des très hauts, Barcelone. Des bas comme aujourd'hui, c'est un très très bas qu'il a produit aujourd'hui contre la Real Sociedad. Il marque, mais il a un très très bas aussi. Bref, ça fait partie de l'apprentissage de ces mecs-là. Donc, moi aussi, parfois, je suis frustré lorsque tu pars sur ce 11 et tu sens très rapidement que Barcola n'y est pas. J'aurais aimé qu'à la mi-temps, Ramos rentre et que Kylian soit sur la gauche. Donc, tu veux qu'on commence par lui. Il a beaucoup de monde autour de lui. Crédit à la défense de Dortmund, qu'on n'imaginait pas être si solide. Ils ont fait l'entonnoir. Il y avait beaucoup de monde. Sachant que Kylian Mbappé est un attaquant qui est tout le temps en retrait lorsqu'il y a des gens qui rentrent pour faire des centres. Jamais on le voit couper une trajectoire au premier poteau. Vous vous souvenez Van Nistelrooy? Il arrive en Espagne. La première chose qui demande, c'est comment on dit premier poteau. Primero pota. Primero poteau. Je sais pas comment on dit, pardon.
Primero pota. On va donner un numéro.
Il est pas du tout comme ça, donc ça manque énormément de présence. Voilà, donc il est bien pris. Il a cette occasion où il a failli marquer, bravo à lui. Mais oui, c'est trop peu pour un joueur aussi fort.
Là où je rejoins Tom, c'est qu'on sait que Ryerson, c'est pas son métier d'être latéral droit, mais il est défenseur central de formation, entre guillemets. Il a pu s'évoluer dans des défenses à 3 en rôle de stopper. Normalement, tu insistes sur les points faibles de l'équipe en face. Que tu commences avec Mbappé numéro 9, ok, soit. Le problème, c'est quand tu fais un changement en cours de match à la 66e minute, pourquoi tu laisses Mbappé en pointe? Après, si tu laisses Mbappé en pointe, peut-être qu'il y a les choix de l'homme aussi qui sont un petit peu différents. Moi, j'ai vu un Mbappé naviguer entre les lignes, servir de relais ou de point de fixation en se situant justement dans ce bloc resserré entre les lignes et en étant une cible facile justement pour des enchaînements. Là, c'était intéressant, mais on l'a pas assez vu. Et pareil dans le plan de jeu, 80e minute, ballon en profondeur. Ah tiens, on voit qu'il y a de l'espace dans le dos de la défense de Dortmund, qui n'est pas la défense la plus rapide d'Europe. Et comme par hasard, ça amène l'occasion de Dembélé. Donc je me dis, on peut reprocher à Mbappé certaines choses. Parfois, il a un peu trop tricoté, un peu trop gardé le ballon, là, encore une fois. Mais à l'inverse, moi, je trouve que c'est mal joué aussi, tu vois, dans le game plan, tu vois, quelque part.
Mais moi, je trouve que Mbappé a pris une mauvaise habitude et c'est pas de sa faute. C'est qu'il a joué avec Messi. Et tous les ballons en remise où il coupe dans l'axe, c'était Messi qui arrivait à faire des passes lobées qu'aucun joueur du PSG aujourd'hui dans le rythme n'est capable de faire. Donc il est coincé dans un truc où pendant un an et demi tu lui as demandé de jouer comme ça mine de rien et t'as marqué beaucoup de buts comme ça, et aujourd'hui quand les défenses se resserrent en Ligue des Champions, il est coincé.
Il est complètement coincé, mais à contrario, il y a eu des moments où Dortmund était très haut sur le terrain et je n'explique pas comment en 90 minutes t'as pas un long ballon avec un appel. Je te dis pas que ça passe et qu'il y a but. Je te dis juste, je vois Marquinhos, qui est capable de le faire, bien sûr, Beraldo quand il rentre, un long ballon croisé pour Mbappé. On l'a jamais vu Cette action-là, c'est inexplicable. On peut parler d'Hakimi sur la fin, si vous voulez, c'est parfaitement joué et tout. Mais c'est pas Mbappé qui prend la profondeur. Donc, si tu l'as et que tu n'utilises pas ses qualités de vitesse, oui, bah, c'est sûr que ça sert à rien. Autant mettre Randall. Non, je dirais.
Mais, qui bref, ça
autant mettre un autre mec. Mais autant mettre Ramos dans ce cas-là. Bien sûr. Non, mais c'est évident.
T'as raison, mais moi je te dis, à la limite, dans ce point 9, j'aurais aimé le voir un petit peu dézoner, aller emmerder un petit peu le défenseur, le faire bouger un petit peu plus, essayer de justement de se placer entre les lignes où tu sais pas trop, il est un peu insaisissable et il peut poser des problèmes. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas assez fait. C'est-à-dire que tu peux reprocher justement, comme tu le disais très bien, au fait que lui puisse essayer de dézoner, chercher le ballon pour essayer de tenter une combinaison, mais de base il ne l'a pas assez fait. Tu peux avoir le joueur derrière qui ne suit pas, mais lui de base ne l'a pas assez fait. Et ça c'est un petit peu problématique. Je ne l'ai pas trouvé assez mobile, pas assez remuant en tout cas comme un neuf devrait l'être.
Je pose une question par rapport à Mbappé. Il s'était fait défoncer après le match aller contre le Barça. Est-ce que vous pensez que là l'opinion générale va dire la même chose sur son match?
Je sais pas, ils vont nous le dire dans le chat déjà.
Alors, ouais, mais dites-nous dans le chat. Moi, il y a quand même un truc qu'il faut peut-être préciser. Je crois que t'as une énorme action de Dembélé dont il est à l'origine, tu sais, avec la petite louche là,
où il arrive
à quand même faire la différence devant trois défenseurs. Il y a cette fameuse triple occasion avec les deux poteaux où il est quand même à l'origine. Alors la deuxième, il y a un peu de réussite parce qu'il se rate complet, il croque même, il mange la feuille, on peut le dire. Mais la première, il y a que lui qui peut aller chercher un poteau sur cet angle-là. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours. Est-ce qu'aussi on n'a pas gardé l'image d'un Mbappé tranchant dans la transition, allant faire des différences sur son côté, donc c'est-à-dire un petit peu qui éclaboussait à l'époque les scénarios de match. Là, dans ce nouveau rôle de numéro 9, peut-être qu'il faut s'habituer à un autre format, un autre type.
Pourquoi tu vas changer ce qui marche? Tu
l'as dit. Ça faut demander à Luis Enrique, parce qu'à 66e, il peut changer.
Tu l'as dit, son action forte, c'est quand il met son poteau. Mm-hmm. Il est sur son axe gauche. Tu vas pas me dire que dans un match contre Dortmund, si tu le places côté gauche, il va pas arriver à dribbler une fois un joueur et se retrouver à cet endroit-là. Je te dis pas qu'il mettrait une lucarne à chaque fois. Mais déjà trouver une position de tir pour Mbappé, ça a été dur ce soir. C'est quand même fou. Et je vous pose cette question qui est volontairement provocatrice. On a vu le match contre le Barça. Il marque au final sur un péno et en fin de match, un peu une fin de match où il n'y a plus personne. Hein.
Mettre un doublé, ça reste un doublé.
Il met un doublé, très bien. Et ce soir, il ne marque pas. Il ne marque pas l'aller contre le Barça. Est-ce qu'on est en train de trouver, en tant que numéro 9, un plan anti-Mbappé?
Ouais, c'est une bonne question.
Moi, j'inverserais un truc. Je me dirais, est-ce que il commence pas à mettre un petit doute dans la tête du Real Madrid parce qu'il y a Vinicius à gauche. Lui, il va être obligé quelque part de jouer neuf. Bon, on se projette. Non, c'est pas ce soir pour le faire. Mais
après, le plan Mbappé, on le connaît. L'empêcher de prendre la vitesse, mettre du nombre autour de lui, etc., etc. Donc, l'avantage, c'est qu'en équipe de France, il joue pas à ce poste-là. C'est ça que j'ai envie de te dire.
Ouais,
c'est que
tant mieux pour nous.
L'avantage, enfin, ce qu'on sait de Kylian, c'est que c'est pas un neuf. Il l'a dit lui-même, Pivot Gang. C'est un gars, c'est un attaquant gauche, pas un ailier gauche, c'est un attaquant gauche. Donc il doit jouer avec quelqu'un d'autre sur lequel il puisse s'appuyer. On le sait. Il y a que Luis Enrique qui fait autrement, mais on va pas défoncer les choix qui les ont fait gagner.
Est-ce qu'on peut se poser la question à un moment donné de l'état physique de Kylian Mbappé? Parce que moi, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, on commençait à se dire, on l'a jamais affirmé, mais on l'a mis en doute avant le match contre le Barça, après le match contre le Barça. Et là encore ce soir, quand tu le vois peiner comme ça à faire des différences, tu te poses la question et que tu refais le fil de sa saison aussi, cette préparation tronquée, ses problèmes à l'été, les différentes... je sais pas si ce mec-là vraiment est touché par la pression, j'ai du mal à y croire, mais tu vois, tous les événements de cette saison t'arrivent aujourd'hui au mois de mai et je trouve un Kylian Mbappé
Ce qu'on a après avec Mbappé, c'est qu'il vaut mieux attendre le retour.
Oui, voilà. Ça c'est sûr.
Ça, c'est là, domicile et tout.
Surtout si tu veux qu'on ressorte la pastille et qu'on dit Manu, moi, tu connais rien.
Vous pouvez faire, les gars, vous savez.
Quelle note vous nous dites, pardon, le chat, quelle note vous donnez à Mbappé? On va juste se concentrer sur Dembélé, après on verra les notes qu'on a données à toute l'équipe. Les gars, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, qu'on a beaucoup vu, et c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on l'a beaucoup vu rater ce soir, non?
À l'image de Ousmane Dembélé, il y a du déchet, il y a des énormes différences et il est très souvent dans les bons coups du PSG. Donc toujours du crédit pour ce qu'il est capable de déclencher. Moi, je trouve qu'il fait un meilleur match
que contre le Barça.
Que contre le Barça, il marque. Franchement, je l'ai vu faire des décalages, j'ai vu faire des centres, des trucs qui faisaient mal. Le truc de cet imbécile de Ousmane Dembélé, c'est que quand il a une occasion qui est d'après moi la frappe la plus facile du football, ça revient comme ça, il est en rythme, il a pas besoin de changer ses appuis, frappe croisée là-bas, il la met au-dessus. Je fais, mais gros,
il réfléchit au pied.
Mais qu'est-ce qu'il fait, gros? Comment il rate ça? T'as pas besoin de la mettre trop. Gros, tu la mets là, tu la cases, y a personne devant lui. C'est incompréhensible. Un joueur de son talent, un joueur de son niveau, qui est en pleine bourre, qui est en pleine confiance, comment tu la mets au-dessus celle-là? Franchement, c'était fou.
C'est peut-être pour ça, les mots vont être durs, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas le grand joueur qu'il devrait être, en fait, Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'on lui trouve des circonstances un peu atténuantes depuis qu'on a repris cette émission, parce que c'est vrai que dans l'animation, dans ce que lui demande, ce rôle hybride et libre que lui donne Luis Enrique, il est souvent satisfait. satisfaisant, on va dire, avant de rentrer dans la zone de vérité. Mais là, en demi-finale de Ligue des Champions, on attend beaucoup plus, t'attends beaucoup plus d'efficacité, t'attends à ce que lorsqu'il a une, deux, trois, quatre opportunités, il puisse au moins t'en mettre une au fond, parce que c'est ça, c'est, je veux dire, le football de haut niveau, à un moment donné, ça joue sur les détails, on va pas enfiler les lieux communs, mais c'est la réalité, et ce match nous le rappelle encore ce soir, et Ousmane Dembélé n'est pas un grand joueur d'Europe, ou un très grand joueur d'Europe, parce que justement, il n'est pas décisif dans ce genre d'événement.
Il l'a été sur le cœur, et c'est pour ça que l'équipe
et
passe.
Et c'est un problème pour le PSG, quand c'est l'un de tes meilleurs joueurs, ou l'un des joueurs au cœur de ton projet, bah, le problème, c'est que tu peux te bouffer les doigts à la fin de cette demi-finale. Allez. Parce que honnêtement, des balles d'égalisation, Dembélé, on retire les frappes extérieures de la surface de réparation en première période. Franchement, il y en a pas un paquet, mais il y en a au moins 2-3 où un grand joueur justement fait la différence.
Il y a l'arrêt de Kobel, c'est sur la.
Et il y a l'arrêt de Kobel aussi qui est pas mal. T'as raison.
Ça c'est pour le coup là il avait bien joué le coup. Raison, elle est pas très forte sa frappe, mais bon, c'est cadré, c'est avec Donnarumma, c'est but.
Je vous demandais la note tout à l'heure pour Mbappé. Alors on a du 4, du 1 sur 10, non. du 2 sur 10, du 3 sur 10. On va voir les notes qu'on a données nous aux joueurs parisiens ce soir. On va commencer donc. Nous on a donné 4 à Kylian Mbappé. Bon, on va pas revenir.
J'aurais peut-être mis la moyenne, ce qui n'est pas bien pour un match de Kylian Mbappé, mais je l'aurais peut-être mis la moyenne. J'aurais aimé le voir plus inspiré, comme j'ai dit tout à l'heure. En dessous de la moyenne, c'est un petit peu dur parce que quelque part, les plus grosses occasions, il est à l'origine de toutes les plus grosses occasions que Paris Saint-Germain a eu ce soir.
Pour moi, tu peux pas lui mettre la moyenne parce que
mais 5 pour Mbappé en demi-finale Ligue des Champions, c'est nul.
Au vu de son contenu de match, c'est soit dans le jeu t'es bon et tu passes la barre des 5, soit t'es efficace et tu pars la barre des 5. Il a été ni très bien dans le jeu ni efficace. Bah, il a 4. Voilà.
Il a 4 comme Ousmane Dembélé, on n'a pas besoin de revenir dessus, ni Barcola à qui on a mis 3, on a dit hein, il est jeune et là c'était
il était très mauvais.
Et on est
c'est de l'apprentissage.
Et on est sympa parce que ça coûte rien au PSG en fait.
Non, ça coûte rien. Au milieu, on a parlé de Fabian Ruiz qui a eu 4, on n'a pas parlé de Vitinha qui a eu 6. Les gars, rapidement sur Vitinha, bon, il était un peu seul hein, dans ce marasme du milieu de terrain, on parlera de Zaïre Emery tout à l'heure. Techniquement, il est toujours aussi juste, mais par contre, on l'a pas vu casser des lignes parce que il y avait moins d'espace, je sais pas, moins d'animation offensive, en tout cas, on l'a moins vu.
Pris par la tenaille de Dortmund aussi hein. On l'a vu à chaque fois, il y avait un surnombre autour de lui, le surnombre on en reparlera d'ailleurs sur la gestion des touches aussi que j'ai pas bien compris ce côté Paris Saint-Germain.
En fait ils savent pas faire. Non, en fait, le Mendes il réfléchit 5 minutes et après peut-être il fait la touche.
Ils sont pas entraînés ce week-end.
Incroyable.
Mais souvent il s'est retrouvé dans une situation de surnombre et franchement dans les duels, dans le fait aussi également de fluidifier le jeu de son équipe et puis dans les choix. Franchement, il y a peu de déchets et dans les choix il a été bon. C'est 6, mais c'est un 6 qui aurait pu être bonifié si autour de lui il avait été bien accompagné qu'il n'ait pas été laissé seul
il à l'image des joueurs des 22 joueurs sur le terrain, même ceux qui sont rentrés, c'est qu'à un moment donné ils étaient tous cramés et qu'il a eu une vraie baisse de tension physique et ça s'est ressorti tout de suite dans ses choix. Il a commencé à faire des erreurs totalement inhabituelles pour lui, donc c'est un 6 parce que c'est reste le dépositaire du jeu et que c'est le seul mec qui lorsqu'il faut faire une passe t'es à peu près sûr qu'elle arrive quand même c'est une qualité dans le match de ce soir pour le PSG.
Zaïre Emery on lui a mis 4. Est-ce qu'il y a quelque chose à ressortir du match de Warren Zaïre Emery?
Trop jeune, couru, trop tendre, voilà. Il a
c'est dur de lui tomber dessus, voilà, c'est très dur de lui tomber dessus,
les têtes à la fin etc. Il y avait des bon écoute c'est un petit match pour Warren.
En fait c'est dur de lui tomber dessus, on peut poser quand deux questions. La première, c'est que il n'est pas de doublure entre guillemets, de mec, tu vois, que tu puisses interchanger en cours de match. Alors, on va me parler d'Ugarte, j'en parlais contre le FC Barcelone, mais vraisemblablement, il n'a pas la confiance de Luis Enrique. Et puis le choix de Luis Enrique de laisser pendant 90 minutes sur la pelouse aussi, quoi. Tu vois.
Très très.
T'as le droit on y vient sur Luis Enrique avec les flops, puisqu'on a déjà parlé à naïveté, on a déjà parlé des latéraux. Je suis désolé.
Pas Fabien Ruiz, ce vieux chien qui.
Fabien Ruiz, on en a parlé. Tu veux en toucher un autre mot?
Trop croque.
Fabien Ruiz, énorme croquette devant.
Mais le problème de Fabien Ruiz, c'est que c'est au mieux un joueur mou technique. Le problème dans le match là, c'est qu'on ne l'a absolument pas vu. Il traverse le match sans impact au milieu, sans passe qui casse des lignes, sans finition.
On l'a vu deux fois dans la cage. Oui,
par contre, on a vu qu'il avait des occasions.
Parce que autant la deuxième est un peu plus difficile. La première, ne pas la cadrer, mais c'est un non-sens.
C'est sur le centre.
Un mec de plus d'un mètre 85 qui sait pas jouer de la tête, moi, ça me rend fou, gros. Qu'est-ce qu'il foutait dans son apprentissage foot, gros? Il faisait pas comme les Outaris, là. Du basket. Oh, mais comment il cadre pas? Mais dites-moi dans le chat, quelqu'un a une explication comment la balle, elle part aussi loin du cadre sur la passe extraordinaire de Marquinhos et la défense qui est complètement à l'arrêt. C'est fou.
Ce qui est fou, c'est que dans tout ce qu'il fait sur cette action-là, donc juste avant l'heure de jeu, centre de Marquinhos incroyable, tu l'as dit, il réussit tout, il arrive à se faire oublier du défenseur, tu vois, il arrive à être dans le bon timing pour aller récupérer cette balle, et pff, le dernier geste par contre, c'est-à-dire c'est 9 sur 10 jusqu'au moment où il touche le ballon, c'est 1 sur 10, voilà.
J'espère qu'il se rend compte qu'il faut absolument profiter d'une demi-finale Ligue des Champions.
Ah oui, ça va pas lui arriver tout le temps,
ça,
tu vois, voilà.
Bah, j'espère que ça lui arrivera plus jamais dans sa vie.
Moi là où il m'a le plus énervé Fabien Ruiz, c'est lui qui incarne, je trouve, le fait qu'il n'y ait pas eu assez de rythme dans les transmissions. Tu récupères le ballon, tu la touches, une touche, deux touches, tu donnes. Tu vois, et c'est ça le jeu du Paris Saint-Germain. C'est comme ça que Paris a fait beaucoup de mal à l'OFC Barcelone. Et là, il a trop tricoté, trop gardé. Jamais trop, il n'est jamais allé trop vers l'avant.
Mentalement, en plus, c'est des matchs qui marquent. Hein. Ça, qui marquent dans les esprits, dans la tête. On verra pour le match retour. On verra aussi ce que va décider Luis Enrique, qui est donc parmi nos flops de cette soirée. On l'a dit, il y avait la naïveté des latéraux. Évidemment, on est obligé de parler de Luis Enrique, non pas pour ses choix de base, mais en fait tout le rôle de l'entraîneur ne s'arrête pas au coup de sifflet, au coup d'envoi, mais il continue tout au long du match. Et aujourd'hui, il a disparu, il a fait les mauvais choix.
Alors, Lucas Hernandez se blesse, tu fais rentrer Beraldo. C'est un choix. Skriniar, Danilo.
On est d'accord avec lui.
Tu es d'accord déjà.
ouais.
Plus que Beraldo.
Faire rentrer Beraldo, c'est ton choix. Il y a pas de souci. Axe gauche, il y a pas de souci. Bon. On arrive à la mi-temps où tu sens qu'ils sont inoffensifs, que ça ne marche pas. On sent quand même un changement tactique où Luis Enrique demande à son équipe d'attaquer d'un côté, de changer de côté et d'aller attaquer de manière franche, un peu comme faisait City, comme fait City en général quand ils font un siège. Bon, pourquoi pas. Une fois qu'on arrive à la 60e et que Barcola est au bout du roulax, il le sort. Qui entre ? Le numéro 23. Michael Jordan. Randal Kolo Muani.
Mais non,
la tête,
non mais
la tête qu'on a fait à ce moment-là.
Non, dis-le.
Et la tête qu'il a fait lui aussi. Moi.
De premier abord, on s'est dit ah ben c'est intéressant. Tu vas prendre un Kolo Muani.
Tu vas trop loin.
Que tu vas mettre dans l'axe et peut-être que tu vas avoir un Mbappé à gauche. Franchement, je te jure qu'on s'est posé la question.
Laisse-moi finir. Randal Kolo Muani entre. La tête qu'on a fait. Pourquoi? Ce gars-là entre, on voit la saison qu'il est en train de faire, il est catastrophique. Pourquoi Ramos, qui score à chaque fois qu'il joue, n'entre pas pour laisser Mbappé sur le côté gauche?
Mais c'est pour ça qu'on pense qu'il va être à gauche. C'est pour ça qu'on se dit que Mbappé va être à gauche. Parce que tu te dis, si tu fais rentrer un avant-centre, bah tu fais rentrer Ramos. Tu fais pas rentrer Kolo Muani.
Dès les premières secondes,
donc,
il est à gauche.
Dit, tiens, il y a peut-être un truc intéressant. Mais là, on comprend plus rien en fait. Quand on voit Kolo Muani partir à gauche et Mbappé rester dans l'axe, on comprend pas bien. Moi, je t'avoue qu'il y a un truc, une question encore une fois que je me pose. On a dit, et Abibé le dit souvent, que les grandes équipes aujourd'hui en Europe, c'est des équipes qui savent maîtriser l'art de la possession, l'art de la transition. Faut être bon dans les deux registres. Moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a eu une possession complètement stérile ce soir, qui était même, encore une fois, afféodé à la question d'équilibre. Je suis sûr d'ailleurs, tu sais, moi j'ai un souvenir quand le Real élimine le Paris Saint-Germain en quart de finale, 8e de finale de la Ligue des Champions il y a quelques années, Zizou est à la tête, t'es à 2-2 je crois, et finalement il gagne 4-2, et Zizou dit à la fin du match, bah, en fait c'est simple, le match était équilibré et c'est en déséquilibrant mon équipe que j'ai fait sauter le verrou en
face. Et il est passé en 4-4-2.
Et il est passé
un truc
en 4-2-4, hein. En 4-2-4 je crois. Ouah, il passe,
franchement,
je crois que c'était un truc comme
il
ça.
Il est en 4-3-3, il est passé avec deux ailiers Vasquez qui rentre et tout, ou Valverde.
Exactement, et l'audace le récompense. Alors peut-être que s'il fait ça ce soir, Enrique, que tu perds 2-0 et que tu perds 2-0, peut-être que
t'as envoyé ton CV dans le staff de Luis Enrique ou quoi.
Non mais peut-être qu'il y a
des choix des dernières années.
Non mais le choix à la
66e, c'est une chance, Manu, c'est de voir le résultat de ce choix quand même.
Oui.
Tu as vu le résultat de ce choix.
Alors, premier ballon de Randal Kolo Muani. Contrôle. Il va vers l'avant. Il y a Fabian Ruiz à gauche. Passe en touche à 3 mètres de lui. Je fais oh. Tu sais ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que ce gars-là entre, c'est le Parisien, le machin, il est là, 90 millions, on y a cru. On est tous encore dans la finale de la Coupe du Monde, il y a 2 ans, où t'as l'impression qu'il est capable de faire une différence, qu'il est capable physiquement de faire quelque chose, il est capable d'être bien placé pour marquer un but de raccro. C'est ce qu'il a prouvé ici ou là cette saison. Le souci de Randal Kolo Muani, c'est que c'est un joueur minable de football. Il a une qualité technique, mais franchement,
en
je
moment,
pense honnêtement
cas,
que je suis plus technique que lui. Et c'est dire, il est catastrophique. Il a fait une entrée, il n'y a que des mecs de 17 ans qui sont capables d'entrer comme ça et qui se chient comme ça dans le Benz. Mentalement, il ne peut plus jouer. Il a coûté 90 millions, il est au bout du rouleau, on lui redonne sa chance dans une finale de demi-finale de Ligue des Champions, et ce qu'il rend à son équipe, hein, pas que au coach et tout, à ses coéquipiers, c'est passes ratées, accélération qui n'a aucun sens, coup de physique, il tombe par terre. Là, j'ai dit, là, mes tontons, c'est trop pour moi. Là, quand ils se font rentrer, ils tombent par terre, il dit faute, tu fais, là, stop. Carrément, si j'avais été coach, je l'aurais ressorti du match.
Ah non mais t'as raison.
Tu vois ce que
et
je veux dire.
Je ne comprends toujours pas, quand tu vois la dynamique des deux joueurs, Ramos d'un côté, Kolo Muani de l'autre, je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais rentrer Kolo Muani. Alors, je sais pas, il y a peut-être des choses qu'on sait pas. Hein.
Il est blessé, peut-être Ramos.
Je sais pas, Ramos, c'est peut-être malade.
Il était en conférence de
presse. Blessé, c'est peut-être tapé la femme de Luis Enrique. Je sais pas, il doit y avoir des explications, tu vois, il doit y avoir des choses, mais c'est absolument incompréhensible. J'aimerais bien avoir les explications de Luis Enrique.
On verra, hein, Luis Enrique en tout cas.
Mais il avait le droit de déséquilibrer. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait. Moi, j'ai peur qu'il se soit obstiné avec son truc de je ne change pas parce que mon équipe elle est équilibrée. Le premier changement arrive tardivement quand même. Tu sais, à la mi-temps, on se pose la question, on se dit tiens, est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'il va pas changer quelque chose ? Ne serait-ce qu'au milieu de terrain, tenter autre chose. Le premier changement arrive tardivement, il ne nous convainc pas et tu te dis mais pourquoi ?
Après,
pourquoi,
ce qu'on peut aussi dire, c'est que si on veut donner du crédit à Luis Enrique sur ce truc, c'est les gars, ne paniquons pas. Ce n'est qu'un match aller.
Non, bien sûr.
Un match retour. Le but premier, c'est d'arriver au mieux en gagnant, au milieu neutre, à 0-0, enfin 1-1 ou 2-2. Et un but d'écart, c'est absolument rien. On a confiance en nous. J'aurais préféré d'autres choix. J'aurais préféré que Ugarte rentre parce que Fabien Ruiz était cramé. J'aurais préféré que d'autres gens arrivent juste pour remettre un petit peu l'intensité. J'aurais aimé qu'il rentre et que Vitinha soit axe gauche pour combiner avec Mbappé, si Ramos était. Enfin, il y a évidemment beaucoup de choses. Ne faire que deux changements dans ce match, c'est incompréhensible. À Dortmund, ils sont tous rentrés, les mecs.
C'est la fixette sur l'équilibre. C'est la fixette sur l'équilibre de son équipe.
Avant de se projeter sur le match retour qui arrivera donc mardi prochain, on sera encore en direct juste après le match pour un débrief. On va quand même avoir un petit mot sur le Borussia Dortmund et on va en parler avec nos tops, évidemment, trois joueurs du Borussia Dortmund dans nos tops. Jadon Sancho, évidemment, Jadon Sancho, fantastique. Fantastique ce soir quand on pense à son passage à Manchester United où on ne le faisait plus jouer et il est obligé de revenir là où finalement il a brillé ses premières années. Il a été fantastique ce soir. Il s'est trop amusé en un contre un.
Il a volé, comme on dit.
Il était juste extraordinaire. Tu vois les problèmes qu'il a posé justement à nos latéraux. Bah voilà, t'as l'explication. C'est Jadon Sancho et ça fait du bien parce que c'est un mec qui était en perdition à Manchester United et là tu retrouves il s'éclate, il s'amuse et dès qu'il touche le ballon il se passe quelque chose extraordinaire.
Il y a Adeyemi aussi, on en a beaucoup parlé sur les efforts mais aussi sur le
mais ça c'est incroyable parce que avant le match, moi je regarde pas tous les week-ends dans la Bundesliga, mais avant le match tout le monde nous expliquait que c'était un peu le point faible de cette équipe qui profitait justement des blessures pour prendre du temps de jeu. Ce soir on a vu un bonhomme et pourtant c'est un jeune mec, mais on a vu un bonhomme qui a beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Non, franchement il a été juste
fou,
extraordinaire.
C'est qu'il est magnifique vraiment. À la fin il est cramoisi
et c'est justement quand il est cramé que son équipe
la fameuse balle en profondeur pour Hakimi, la passe pour Dembélé, elle est 100% pour lui. Allez revoir le... Maintenant, il y a des résumés de 14 minutes sur BeIN et sur Canal. Bravo d'aller sur RMC. Tout le monde fait les trucs. C'est gratuit, c'est magnifique. Allez revoir cette action. Ouais. Et sur le ralenti avec la caméra qui est derrière le but de Sirigu, j'allais dire, de Donnarumma, il en peut plus. Il est là. Il voit son gars partir. Il a dit, vas-y, m'en bats les couilles. qui marque ? Je suis cramoisi. Et donc, il fallait évidemment en profiter. T'as raison. Mais bon, encore fallait-il être efficace.
Exactement. Et puis, le dernier top, évidemment, c'est l'attaquant de pointe, Fulkrug.
C'est l'homme du match.
Qui est l'homme du match, qui nous rend presque nostalgique de ces années 2000 où il y avait des attaquants comme ça, de grande taille, capables de pointer, de mettre un but sur une action. Voilà, c'est des mecs qu'on peut ne pas voir pendant un match.
C'est ça.
Et s'ils ont une occasion.
Il y a une énorme occasion. Pied droit là.
Alors le contrôle,
il peut se bouffer les couilles lui.
Le contrôle et l'enchaînement qu'il fait sur le but, c'est fou. Magnifique. Moi en fait, tu sais, c'est marrant parce que ces dernières années, il y a eu toute une génération de super attaquants, super élégants côté allemand. C'est des mecs super élégants.
Mais des milieux offensifs, pas des neufs.
Ouais,
non
c'est vrai, pas forcément des neufs, mais qu'on présentait comme des attaquants devant. Ils avaient tout, la classe, le truc. Mais dans les pareil, 25 derniers mètres, les grands matchs, je les voyais pas. Fulkrug, c'est tout l'inverse. Zéro ganache, zéro dégaine. Par contre, dans la zone de vérité, il est diabolique.
Tu penses à qui? Tu penses au Gauthier,
à Werner, à Wertz.
C'est que des mecs de rupture. Lui, c'est vrai, tonton, c'est leur Giroud.
C'est un vrai neuf. C'est leur Giroud, c'est exactement
c'est
ça.
C'est un costaud, mon gars, dur au mal. Ces mecs-là, en général, ils ont plus de mental que les autres, quand même.
Et il va être dur pour le match retour parce que c'est des mecs qui ratent très peu d'occasions, même si on l'a dit, ils ont.
Sans Lucas, parce que je ne sais pas si on a parlé la blessure rapidement de Lucas. On n'a pas d'information pour le moment. À moins l'euro, c'est pas terrible, quand même.
Son genou droit.
Une semaine d'un retour, surtout.
Une semaine d'un match retour aussi, on l'oublie.
D'abord.
Winamax, notre partenaire d'ailleurs de cette émission, on vous rappelle, a sorti les cotes pour le match retour. Donc mardi prochain, on vous rappelle que si vous pariez avec modération, vous faites attention avec les jeux d'argent. Le PSG est à 1,41 à domicile pour la victoire. Le match nul est à 3,75 et la victoire de Dortmund à 6,25. Et la qualification, PSG évidemment toujours favori, 1,54, Dortmund 2,05. Les gars...
Ils sont grandement favoris pour la victoire et la qualif. Ouais. C'est ce que je comprends. Grandement
selon
favoris.
Selon les cotes.
Ouais, selon les traders. Ouais. Mais c'est toujours une tendance sur l'opinion publique. Et moi,
je suis
exactement dans cette mouvance. J'avais dit 2-2 moi, avant le match. Ouais. J'avais dit, je pensais à un match disputé et tout. Là, je suis à la fin du match, je regarde. Une fois passé la frustration de l'occasion de Dembélé, des doubles poteaux, des performances de certains mecs, de Randall Kolo Muani, le sentiment qui prédomine, c'est ils vont le faire au retour.
Tu dis ça parce que tu dis que normalement ils auraient dû être sanctionnés sur ce match aller. Oui. Donc tu dis t'as encore envie. Donc si t'as encore envie, c'est que justement, eh bien, le football va sanctionner Borussia Dortmund. Mais il faudra autre chose du côté du PSG. Il faudra être, on va répéter toujours les mêmes adjectifs, mais plus tranchant, plus efficace, plus bonhomme dans les zones de vérité. Et ça, en vrai, on n'a pas de certitude sur ce PSG-là en demi-finale de Ligue des Champions. Comment ils vont gérer l'événement? Comment ils vont gérer l'événement? Même si c'est au Parc des Princes, même si, oui.
Bah, ce qui est terrible, c'est de pas marquer. Cette équipe a toujours marqué dans les matchs, dans les phases, là, les dernières, les 4
dernières.
T'as 12
occasions, t'as 12 balles de but.
C'est incroyable.
Et 12, c'est pas
grave.
C'est
de pas marquer ce soir. Bah oui, t'as raison.
T'as plus d'expecting goal. Alors, on sait jamais trop les déterminantes de cette statistique. Mais t'as plus d'expecting goal que Borussia Dortmund. Donc, tu peux voir le verre à moitié plein.
C'est jamais bon signe si t'en parles.
C'est ça, exactement.
T'as perdu,
non, mais c'est ça. Mais tu vois, si tu peux voir le verre à moitié plein, à moitié vide, t'as eu plus d'occasions, t'en as pas mis une seule. Ils ont eu moins d'occasions que toi. Et ils sortent avec une victoire 1-0, ils auraient même pu l'emporter 2-0. Bon bah écoute, comment tu vas gérer l'événement au retour, c'est une grande question quand
donnez-nous votre prono pour le match retour dans le chat, on va les prendre. Et puis juste avant de vous demander vous votre prono, vous y réfléchissez, on vous dit un peu comment profiter du code FT10 avec Winamax. C'est Thomas qui va vous en parler, vous pouvez l'écouter.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Retour à un match.
Manu, toi qui as envie de parler, je vais commencer par ton prono pour le match retour. Qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu me posais, s'il te plaît?
Non, en fait, j'allais poser à Tom la question de savoir, tu t'attends à quel genre de match retour? Ah, ouais. Parce que la grande surprise, quand même, c'est qu'on n'ait eu qu'un seul but ce soir, en fait.
Ah, bah là, tu sais, avec Tom, on regardait toutes les cotes, tout était annoncé, début, et on se disait, c'est pas le moment de parier sur un match.
Tu l'as dit dans la preview, d'ailleurs.
On en a parlé. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, c'était ici, en fait. C'est exactement ce qu'on aurait dû faire. Crédit à Rémi Reverchon, que j'embrasse, hein, qui tout à l'heure m'a dit 1-0. Je dis, moi jamais, tu connais rien au foot. Non, pas du tout, mais 2-2, 3-3, etc. Ouais. Non, 0, bon, ok. Moi, j'imagine déjà un but en première mi-temps du PSG, donc un match fou.
Okay.
Non. Un but du PSG et donc un match fou, parce qu'en fait.
Un 2-1 complètement fou qui t'emmène en prolongation.
Non, j'ai envie de voir le match qu'on attendait pour le premier game, là. C'est-à-dire, j'ai envie de voir des buts, des surprises, des moments éliminés.
Si moi, je pense qu'on l'aura pas. Je pense qu'en fait, on a deux équipes. Je pense qu'on a deux équipes qui arrivent en demi-finale de Ligue des Champions, qui sont pas habituées au truc, qui sont. Alors. Pour le Borussia, qui a une saison un petit peu particulière, qui est peut-être pas au top non plus de sa confiance. Le PSG, qui est dans une phase de transition. Je m'attends pas à un match avec beaucoup de buts. Je dis 2-1 au bout de 90 minutes.
Ah ouais.
Et on va espérer que Paris passe.
Moi, je suis pas d'accord, parce que tu as dit des équipes jeunes, inexpérimentées. Donc, si tu prends un but, ça peut vite exploser. Ouais, ouais. Et du coup, ça peut vite s'emballer.
Parfois, enfin, il est à droit, hein, derrière. Parce qu'on l'a vu ce soir. Il y avait
ouais, mais dans un match plutôt fermé, il y a eu quand même beaucoup de moments de rupture. Ouais. Oh ouais. Beaucoup de moments, la deuxième mi-temps, il y avait plus de rythme, plus d'espace au terrain, plus de situations de 1 contre 1. Et dans un match où tu seras au bout des 180 minutes, j'ai quand même envie de croire que Paris, dans ce moment-là, sera capable de sanctionner. Mbappé, il va pas rater 14 occasions face au gardien, ou je rentre sur mon pied droit. Enfin, tu vois, c'est pas son genre.
Non, clairement.
C'est pas son genre, la certitude, elle est.
Surtout pour la fin d'histoire avec le PSG.
Voilà.
Ça serait vraiment terrible.
Non, moi, je pense que Paris va gagner 3-1 en retour.
Je prends quelques pronos dans le chat. Il y a Eltos qui nous dit qualif de Dortmund au péno. Desif qui nous dit 2-1 pour le PSG, mais je vais aller allumer un cierge avant. Bah, tu fais bien. Et puis sinon, il y a du 4-1 PSG, 3-1. En tout cas, on sera là pour débriefer, quoi qu'il arrive, ce match. Alors, il y aura pas Thomas, hein, qui sera en voyage d'affaires du côté du Sénégal.
Un duplex, t'inquiète, il y a qualification.
Il y aura mon Manu et puis il y aura mon Mathias, hein, qui était là avec nous pour les débriefs de la Coupe du Monde, c'était.
C'était la Coupe du Monde déjà
et ça commence à faire. Donc voilà, on se retrouve mardi prochain en direct après le match retour.
Attends, je veux que tu me donnes un pronom pour Real Bayern là, tu sais.
Ah ouais, Real Bayern.
Attends, c'était deux équipes préférées dans le championnat.
Le Bayern.
En
plus, il y avait quelqu'un qui disait la finale sera 100% allemande.
Ah.
Donc j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout.
Real
pour moi,
pas au passage du Bayern en finale.
Non, pour moi le Real va passer.
À Madrid.
Bah, je sais pas.
À Madrid.
S'il change pas de charnière centrale, ça va passer.
Moi je me dis qu'à un moment donné, le Real, on sait, le Real nous habitue à ça ces dernières années, mais tu peux aussi pêcher par excès de minimalisme. Voilà. Et c'est peut-être ça. C'est à un moment donné, voilà.
Ça m'embêterait qu'il y ait le Bayern Munich au vu de leur saison en finale de Ligue des Champions. Après, le football est parfois comme ça.
Il y a des bookies qui disent, juste pour voir la tendance.
Ah oui, c'est
pour finir là-dessus, c'est intéressant toujours d'avoir.
Donne ton pronom en attendant. 1,86 Madrid, 3,55 le Bayern.
L'histoire.
Et la qualif, 1,45 Madrid, 2,60 le Bayern.
Ouais, l'histoire.
Le classique, les équipes les plus titrées.
Le sens de l'histoire.
Il y a eu 2-2, ouais. Avec doublé de Vinicius. Ouais, je dirais quand même. Et attends, si Kim est sur le terrain, victoire du Real Madrid.
Quel horrible joueur.
Entre Emeric Laporte et Kim, le match de mardi soir, je ne sais pas, Emeric Laporte et City, bien sûr, je ne sais pas qui a fait le pire match dans un grand match de Ligue des Champions, mais bon, écoute, vous nous direz.
On va prendre un peu de recul cette nuit, on va y réfléchir.
On va y réfléchir. Merci en tout cas, les gars, pour le débrief. On se retrouve donc mardi prochain, juste après le match, et on verra si le PSG a réussi à renverser la situation ou si le Dortmund crée l'exploit et va en finale. Allez, à mardi prochain.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.